Luc Fortin.
Monsieur la Liberté, bonjour.
Bonjour, Monsieur Fortin.
Christiane Campagnat, ça va bien?
Oui, ça va bien, toi?
Yeah, oui, merci, c'est gentil. J'espère, la maison également, que vous allez bien. Première de l'année 2020, hein, il sera question de vision tout au long de l'année, que ce soit pour les verts autour de la vision, vont essayer de sortir des produits intéressants. Et j'espère que nous ne serons pas en reste, parce que ce soit Apple avec son accessibilité, que ce soit, qui sait, il me semble que ce serait une bonne année pour avoir des choses intéressantes. En tout cas, on vous en souhaite une bonne. Aujourd'hui, Christiane, on a décidé de, proposer des choses qu'on a déjà, disons, diffusées. Un petit retour 2019, mais positif.
Oui, c'est d'ailleurs, c'était ton idée et c'est tes choix d'entrevue, d'ailleurs.
C'est vrai. Oh, c'est parce que non,
Non, c'est seulement pour prévenir... parce que c'est moi qui ai préparé la feuille de route, c'était les entrevues les plus longues de l'année.
Ah, mais c'est parce que, en fait, c'est ce qu'on voulait, c'est des entrevues qui ont donné quelque chose, des résultats, pas nécessairement à cause d'Accès Libre, là, je dis pas ça, mais je dis que souvent, on parle de choses qui ne fonctionnent pas, là, ça fonctionne. Et nous débutons avec une situation qui a froissé beaucoup d'auditeurs.
J'ai oublié. C'est vrai, j'ai fait la feuille de route ce matin et j'ai oublié de la transmettre.
Ah bon?
Parce qu'à cause des temps des entrevues, on est obligé de jouer un petit peu.
Bon, mais je peux m'en aller jusqu'à...
Alors moi, je vais te dire de quoi on va parler dans un moment. Je suis vraiment désolée. On commence l'année un peu tout croche. Je suis désolée. Alors, on va commencer par parler du spectacle Camille.
Attends, j'ai fait une petite intro pour Camille. Parce que moi, j'ai fait mes devoirs pendant les fêtes.
Ça fait une
demi-heure
qu'on se parle hors onde, c'est pas 45 minutes.
Alors, le 6 septembre dernier... Diane Boutillier et moi avions l'occasion d'aller vivre une soirée pas banale, c'est-à-dire cette Camille, ce spectacle immersif, et on a voulu revenir sur le sujet. Ça se passait le 9 septembre et vous allez le constater, là, Diane et moi avons été touchés bien au-delà de nos attentes. J'ai invité Diane parce que jeudi... Elle et moi sommes allés au spectacle qui est, depuis mercredi, au Montréal Art Interculturel, donc le MAI. Camille, un rendez-vous au-delà du visuel, idée menée par Audrey-Anne Bouchard, qui, elle, est au téléphone. Salut, Audrey-Anne.
Allô, Luc et Diane.
Bonjour, Audrey-Anne.
Audrey-Anne, je pense que tu vas nous écouter pour un petit moment, parce que je veux vraiment avoir une idée de ce que Diane a pensé. Mais toi, je t'ai surtout demandé... d'essayer de réfléchir sur la perception des gens qui ont un handicap visuel versus la perception des gens qui ont une vue parfaite, puisque, pour ceux qui l'ignorent, ce spectacle-là ou cette expérience-là est sous bandeau pour tout le monde, donc un rendez-vous au-delà du visuel, ce qui fait qu'évidemment que les personnes voyantes ont sûrement une perspective bien différente de celle de Diane et moi. Diane qui a une perception lumineuse et qui a mis bandeau, Diane?
Oui.
Moi, j'en avais pas. Pas parce que je suis rebelle, mais parce que vraiment, tant qu'être aveugle, je le suis complètement. On fait pas les choses à moitié ici. Bon, c'est une idée sur laquelle on a travaillé pendant 3 ans. On voulait utiliser tous les autres sens pour nous offrir cette expérience-là. Donc, on n'est pas juste spectateur d'une pièce, on est participant à cette pièce-là. Et j'avoue, Diane, que j'y allais de reculons. C'est parce que c'était Audrey-Anne qui faisait la pièce que je me suis dit, bon, vas-y donc, Fortin, là, essaye de sortir de ta zone de confort. Je me disais, j'ai pas envie d'être pris, d'être tassé à gauche, à droite. Moi, si je vais au théâtre ou si j'écoute un film, j'aime réfléchir sur ce qui se dit, j'aime réagir à l'intérieur de moi. Mais pourtant, j'ai été subjugué, peut-être pas bouleversé, mais... vraiment, vraiment chamboulé. J'aurais manqué quelque chose si je n'avais pas été là. Et probablement que si tu n'avais pas été là, je serais peut-être pas allé non plus. Toi aussi, tu as aimé ça.
Moi, j'ai été éblouie, vraiment. J'ai été éblouie par toute la créativité qu'il y avait là-dedans. On voit qu'il y a eu un énorme travail qui a été fait en amont. Et il y a beaucoup de... On vit un paquet de choses à travers des émotions, des sensations. l'expérience avec les comédiens qui sont là, qui... On voit que ces comédiens-là, il y a une qualité, il y a un talent derrière, parce que juste la manière dont ils nous touchent, qu'ils nous approchent, en tout cas, moi, ça me faisait vivre toutes sortes d'émotions.
C'est jamais intrusif.
Non, c'est fait avec énormément de délicatesse et de respect. Et en même temps, c'est une manière... on est touché de différentes façons, parce que parfois, on est touché pour être guidé vers quelque chose, mais parfois... on est touché pour, comment dire, participer à quelque chose, parce que je ne veux pas trop en dire, mais on participe directement au spectacle. On est à l'intérieur du spectacle.
Oui, si supposons un comédien a de la peine, ben il va peut-être mettre sa tête sur notre épaule. Et ça, c'est pas pour nous guider ou quoi que ce soit, c'est pour qu'on sache comment celui-ci se sent. Donc, c'est là où on participe. On est comme un ami... de ce comédien-là qui... D'ailleurs, moi, je me suis pris au jeu, là. Parfois, je prenais le bras de la personne, j'essayais de la serrer. Si ce n'est que, pas le personnage, mais le comédien, j'avais envie de lui dire « Tu travailles bien. Lâche pas. As-tu... toi, t'es-tu...
J'ai vécu toutes sortes de choses, ouais. En fait, parce que moi, à un moment donné, je me suis posé la question... parce que comment je dirais, il y a vraiment, bon, il y a quand même une histoire, une histoire très simple.
Oui, hein? Ça c'est peut-être le point faible, si on veut. C'est pour moi, là, c'est le seul bémol. Ça prenait une histoire, puis il n'y aurait pas d'histoire. C'est pas grave, l'histoire. C'est une excuse.
Moi, j'en avais besoin.
OK.
Moi, j'aurais pas embarqué autant s'il n'y avait pas eu d'histoire.
Ouais.
Moi, j'ai vraiment suivi l'histoire, j'ai embarqué dedans, même si elle était très simple.
Ouais.
Parce que c'était comme le fil conducteur de l'émotion. Puis le comédien...
sa meilleure amie quitte. Il ne sait pas trop pourquoi, puis il s'ennuie de sa meilleure amie qui est partie au loin.
Exactement. Donc, ouais. On est dans cette émotion-là, mais en même temps, on vit des choses. Parfois, les choses qu'on vit nous font entrer dans l'émotion du personnage, mais parfois, je me sentais un petit peu schizophrène parce que moi, je vivais une autre émotion. Il y a eu un moment donné où je riais à éclat, là. Je riais alors que le personnage était dans une détresse. Alors, et je sentais la détresse du personnage, mais moi, ce qu'on me faisait vivre à ce moment-là me faisait rire.
OK.
Alors,
mais on t'a pas entendu, c'est bien. C'est vrai?
Ah, ben, je sais pas, parce que je pense que chacun, on est un peu dans notre intériorité aussi, hein? On vit chacun pour soi. Moi, je sais pas ce que les autres vivent à côté de moi, là. En tout cas, je sais pas toi, là, si tu entendais ce qui se passait autour, mais moi, j'entendais les comédiens.
Oui, oui, uniquement, ouais. Mais je t'ai entendu rire lorsque, parce que bon, ça, je pense qu'on peut le dire, ceux qui ont vu le vidéo, et le vidéo est maintenant un grand public, là, on nous a pairé pour danser la valse. Puis là, je t'ai entendu rire et je me dis, bon, elle rit déjà de moi. Parce que j'aime pas danser. C'est probablement moi, mon moment inconfort. Mais c'est pas grave, il en faut du inconfort dans ce moment-là.
Bien, c'est ça. Puis l'inconfort, en fait, c'est qu'il y a des moments, pas que j'étais inconfortable, mais j'avais un petit sentiment d'incertitude. Ouais. Qu'est-ce que je peux faire, même si Audrey. C'est-tu Audrey-Anne ou Andréane?
Audrey-Anne.
Audrey-Anne, pardon. Audrey-Anne, avant, nous accueille au départ, lorsqu'on arrive. Puis elle nous dit bien clairement, sentez-vous libre. Libre comme de participer ou pas. Mais malgré ça, il y a des moments où j'étais dans le spectacle, puis là, je me dis, qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je peux aller jusque-là ou pas? Mais puis il y a eu un moment donné où, quand on dansait, où je me suis vraiment laissée aller.
Okay.
Parce que là, je chantais que oui, là, je pense que c'est correct. Là, mais c'est ça, on est un petit peu dans cette sensation-là de ne pas être trop certaine, mais je pense que c'est voulu aussi, puis que ça rajoute aux émotions qu'on vit aussi.
Audrey-Anne, moi, je te dirais en tout cas que ceux qui pensent que c'est une expérience là, de ne pas voir et tout, puis bon, tu valideras ou tu me diras ce que les gens perçoivent, mais je pense que c'est essentiel de ne pas voir parce que tu pourrais perdre ton attention sur des choses sur lesquelles... Donc, c'est pas juste comment vivre sans voir ou comment voir cette pièce-là sans voir, c'est comment... vivre cette expérience-là autrement, d'où le au-delà du visuel. Vraiment, là, autant l'olfactif que le goûter, que sous les pieds, que les épaules, que la tout, 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 tout est mis à contribution. C'est fabuleux. Et avec des moyens, somme toute, assez réduits, là.
Oui. Ben, en fait, on essaie de rester dans la simplicité des accessoires. C'est sûr qu'au fil des années, ça nous a pris 3 ans à créer ce spectacle-là. On a fait des choix, on a épuré un peu, mais il y a quand même, je dirais, toute une machine
Ah oui, c'est
derrière
clair.
le spectacle qui s'opère. Puis même, bon, il y a des gens qui parlent d'un ballet parce que c'est sûr que de le voir, ça sortirait de votre. Quand vous dites, j'avais l'impression d'être un peu dans ma bulle de spectateur. J'entendais pas beaucoup les autres spectateurs, mais c'est que vous êtes vraiment à l'écoute de vos sensations quand vous vivez la chose. Si la vue était là, ben déjà, moi, j'ai créé ce projet-là dans le but d'offrir une expérience dont les personnes non-voyantes manqueraient rien. Alors, si les personnes voyantes la visaient sans bandeau, ça serait déjà pas égal.
Okay.
Mais de toute façon, notre imaginaire opère beaucoup, puis nos sensations déclenchent des fois des souvenirs ou des émotions, des sensations qu'on vit pas souvent parce que on est tellement habitué, ceux qui voient, de fonctionner avec la vue, que parfois, c'est ça, il y a certains mouvements, certains contacts chez des gens qui vont déclencher des souvenirs auxquels ils n'avaient pas pensé depuis longtemps.
Oui, puis bon, quand tu vois quelque chose arriver, t'as pas l'élément de surprise. Exemple, si la surface sous tes pieds change, mais que tu la vois devant toi qui va changer, t'as pas le même sentiment que « Ah, là, c'est autre chose ». Qu'est-ce qu'on te dit à la sortie?
On me dit, les gens en général aiment beaucoup, on me dit qu'ils se sont, les gens prennent la peine de me dire, je me suis sentie en sécurité tout du long, parce que je pense que au départ, veux pas, autant de la part des personnes non-voyantes que des personnes semi-voyantes, voyantes, il y a quand même une insécurité, parce que bon, c'est quand même un territoire inconnu qu'on n'a pas l'habitude de vivre dans un contexte de spectacle. Mais les gens, donc, à la fin, me disent, je me suis sentie vraiment bien tout du long. J'ai aimé l'histoire, j'ai été attentive, j'ai vécu des choses, je m'attendais pas à participer autant. Donc, les gens, je pense qu'ils sont étonnés de voir à quel point ils se sentent quand même bien dans l'expérience. Oui.
Et les voyants, disons, par rapport aux personnes aveugles ou habituées d'avoir un handicap visuel?
Bien, c'est sûr qu'elles me disent beaucoup, ça nous permet d'avoir un peu une perspective de c'est quoi être une personne non-voyante.
Okay.
Et moi, je leur dis, ben oui et non, parce qu'en même temps, vous êtes dans un contexte ultra sécurisé, que nous, on a créé et pensé au quart de tour. Mais ils me disent aussi, ben c'est sûr qu'eux, ils sont beaucoup plus déstabilisés en partant par l'expérience. Et en général, bon, je veux pas généraliser, mais ils vont peut-être être un peu moins à l'aise de participer.
Ouais.
Parce qu'ils doivent composer du début à la fin avec le fait qu'ils sont privés d'un sens qu'ils utilisent souvent.
Ouais.
Tandis que les personnes non-voyantes vont plonger rapidement, puis être, comme je pense à toi, Luc, qui était plus à l'aise de discuter avec les personnages et d'embarquer dans dans l'action.
Ouais, et puis aussi suivre la corde. Ou
Oui, exactement.
Diane, mot de la fin, je suis obligée de vous laisser. Désolée, mais oui.
Ben, moi, j'ai l'impression que Audrey-Anne, elle a inventé quelque chose, honnêtement.
Ah oui.
Parce
que
j'ai jamais, jamais, jamais de ma vie vécu quelque chose comme ça, aussi intense aussi, parce que c'est vraiment intense le temps qu'on est là. Quand je suis sortie de là, j'étais dithyrambique. Là.
Non, c'est vrai que tu parlais à l'international avec ça. Il y a quelque chose, là. Tu sais, ceux qui ont inventé le souper dans le noir, là. Essaie de mettre un brevet là-dessus. Y a quelque chose à faire et ce doit être vécu par le plus de gens possible. Malheureusement, tout est vendu, mais bon, tu me disais qu'il y a d'autres pièces, d'autres troupes de théâtre qui peut-être veulent reprendre l'idée et que tu es là pour leur montrer un peu comment poursuivre.
Oui, puis on espère vraiment de le refaire. Puis je tiens à vous remercier parce que moi, ce spectacle-là, je l'ai créé pour des personnes qui vivent en situation de handicap visuel, puis d'avoir un retour de votre part, si enthousiaste mais engagé, c'est vraiment enrichissant et ça nous encourage à continuer.
Assurément, pour moi, en tout cas, un des événements touchant la limitation fonctionnelle, quelle qu'elle soit, qui a été marquant en 2019.
Luc, cet automne, tu t'es entretenu avec Philippe Schnob, le président du CA de la STM.
C'est vrai, et même s'il n'y a pas eu véritablement des changements suite à notre entretien, M. Schnob et moi, sauf peut-être des perceptions, ça valait quand même la peine d'être redit. Lui, qui est président du conseil d'administration de la STM, a répondu à l'invitation du groupe Ex Aequo, à savoir prendre le bus en fauteuil roulant. Ex Aequo vous a invité à prendre un bus en fauteuil roulant. Je suis curieux de voir comment tout ça s'est passé et surtout la rétroaction, parce qu'ensuite vous avez été causé un peu avec certains membres d'Ex Aequo qui, eux, vivent la situation quotidiennement. D'abord, le tour d'autobus a pris combien de temps? A duré combien de temps?
Ah, ça n'a pas été très long. On est parti du coin, je vous dirais, Saint-Antoine et Saint-Laurent, puis on est descendu au bureau d'Ex Aequo qui sont au coin des pins du parc, là, je dirais, grosso modo. Donc, on n'a pas fait un long tour de bus, mais c'était suffisant pour vivre l'expérience. Je dois dire que j'ai pas la prétention d'avoir une grande expérience, parce que je comprends qu'évidemment, les gens qui sont en fauteuil roulant, c'est une expérience d'une vie. Moi, je l'ai vécu pendant moins de 20 minutes, une heure, là, même moins d'une demi-heure. Donc, je comprends que cette réalité-là que moi, j'ai vécue n'a rien à voir avec celle des gens qui la vivent tous les jours. Cela dit, ça m'a donné l'occasion de voir certains éléments qui, même dans une courte expérience, m'ont permis de comprendre certaines réalités là qui me sont racontées régulièrement.
C'est ça. Vous, personnellement, je présume que vous aviez des a priori. Il y a sûrement eu des confirmations et des surprises.
Ben d'abord, c'est une chose qui m'a que j'ai trouvé très plaisante, c'est que la rampe s'est déployée.
Oui.
Alors il semble que ça arrive, que
vous
ça ne soit
tombé.
Pas le cas. Puis
vous
c'était clairement pas prémédité là, parce qu'on avait convenu Marie Turcotte et moi, c'est Marie qui m'avait invité, que je mentionnerai pas la direction à quel moment le voyage allait se faire, donc c'était complètement aléatoire. On a pris la ligne 129 qui remontait Saint-Laurent et ensuite des Pins, du parc plutôt, et donc c'était pas prévu. C'était un bus qui était pas un bus récent, donc ça aurait pu arriver, mais c'était pas le cas. Ça aurait pu être une rampe arrière aussi, mais c'était pas le cas. Alors de ce côté-là, ça s'est bien passé. Je dirais que moi, ce que j'ai découvert, là, puis c'est peut-être pas lié à la STM, mais c'est que c'est très difficile de se promener sur nos trottoirs, de monter aux intersections et tout. Là, ça a l'air plus facile que ça l'est quand on est sur... Là, j'avais un fauteuil manuel là, aussi.
Okay. Bon, c'est sûr qu'il y a l'habitude aussi, quand même.
J'imagine que je me serais fait des bras, puis j'aurais moins de difficultés, mais ça m'a surpris. Là, je n'avais pas compris ça. À l'abribus, c'est un autre élément intéressant. J'ai voulu entrer dans l'abribus, puis c'était un vieil abribus qui il y avait un petit décalage, donc j'ai pas pu entrer dans l'abribus. Donc si on l'a souligné aux équipes aussi.
Quand là, vous dites un décalage,
C'est un vieil abribus en béton là, donc il avait probablement travaillé un peu avec le temps, c'est qu'il y avait c'est pas une marche là, c'était juste
au niveau du
juste, il y avait un
terrain là.
Un petit truc à monter trop grand pour moi.
OK.
Sans l'habitude, peut-être qu'autrement... Mais
je comprends.
Mais bref, ça, on l'a souligné aux équipes, là, parce que c'est pas normal, puis que cet abribus-là ne soit pas accessible. Là. Donc, c'est un phénomène. Donc, ensuite, dans le bus, pas trop de difficultés à m'installer. C'est peut-être davantage à l'arrivée que j'ai eu de la difficulté, parce que dans le bus, il n'y avait pas grand monde quand je l'ai pris. Là. On n'a pas fait exprès pour faire ça à l'heure de pointe, puis je comprends qu'à l'heure de pointe, il y a d'autres réalités. Mais c'était à la sortie que je me suis rendu compte là que ça créait beaucoup de confusion. Il y a des gens qui essayaient de monter, Puis ceux qui le prennent régulièrement là, savent exactement ce que je veux dire. Là, si on veut sortir en fauteuil roulant et qu'il y a des gens qui entrent qui vont nous empêcher de sortir, là, il faut leur demander de sortir. En tout cas, bref, c'était un peu compliqué. Le chauffeur s'occupait de déployer la rampe, les gens dehors. Et là, il y a un client à l'extérieur qui a compris ce qui se passait puis il a géré la situation avec le chauffeur. Mais je me dis, bon, effectivement, quelqu'un qui fait ça régulièrement, là, ça peut devenir un peu irritant là, d'avoir à expliquer ça à chaque fois. Et c'est une situation, évidemment, si on veut que les gens soient davantage présents dans le réseau régulier, mettons de côté la question des rampes avant ou arrière, là, si c'est un enjeu à chaque fois de devoir de demander aux gens de se pousser, de faire sa place, etc., etc., je comprends que ça puisse devenir un peu irritant. Là,
ben, pour, ça, c'est peut-être l'éducation, mis à part, ou bien dès que le chauffeur ouvre la porte, de mentionner à un instant, s'il vous plaît, mais c'est le genre de truc qui peut se régler facilement, mais en même temps, ça prend une volonté sociale.
Tout à fait. Puis là, moi, je crois que oui, il y a de l'éducation à faire, vous avez raison. Puis c'est un cercle vicieux, hein, parce que plus on sera nombreux en fauteuil roulant à prendre le bus, plus l'habitude se prendra.
Ouais.
Donc, il faut, c'est l'œuf ou la poule. Là. Donc, il y a cette réalité-là aussi, parce que c'est comme ça qu'on va réussir à former les clients réguliers aussi, là, fait que quand quelqu'un arrive en fauteuil roulant, mais ça implique de laisser sa place, puis de aussi faire de la place à la sortie. Éventuellement, là, on travaille là-dessus, là, pouvoir modifier les messages vocaux dans l'autobus pour qu'il y ait un message vocal qui dise « S'il vous plaît, veuillez... » Je ne sais pas comment on le formulera, là, mais on travaille là-dessus aussi.
Une fois sur place, c'est-à-dire là, lorsque vous avez rencontré les gens pour discuter un peu, comme vous le faites maintenant, de votre expérience et surtout de répondre aux questions et aux doléances, qu'est-ce qui est ressorti? Est-ce qu'il y a eu des surprises? Est-ce que... ou c'est plus finalement de rassurer les gens en disant « Je vous ai entendu, j'ai... » vécu, ou en tout cas, j'ai compris certaines choses que vous mentionniez depuis plusieurs mois.
Ben moi, j'ai trouvé très utile la rencontre. On a d'abord fait une présentation. On m'a expliqué qu'on avait fait un petit sondage maison pour la fiabilité des rampes. Et puis, on a évoqué évidemment le fait que parfois, la perception que les rampes ne sont pas fonctionnelles dans un plus grand pourcentage de temps que ce qu'on nous dit ici, c'est une réalité que je comprends. Là. Nous, on dit que les rampes sont très, très, très fiables quand on les déploie au centre de transport. Puis parfois, les clients ont une autre perception. Alors, il faut qu'on prenne ça en considération. Donc, il faut trouver peut-être des façons de déployer la rampe plus régulièrement, parce qu'un des enjeux de non-fonctionnement, c'est si elle est coincée, ben, c'est peut-être parce qu'on ne la déploie pas assez souvent.
Mais est-ce que...
Il y a l'œuf ou la poule, s'il n'y a plus de gens au fauteuil dans le réseau, mais on va la déployer aussi plus régulièrement dans le service régulier, et là, ça va faciliter les choses.
Est-ce que le chauffeur est... au garage. Je présume que le chauffeur est tenu d'utiliser la rampe avant même de démarrer son premier voyage?
Non, ça ne fait pas partie des vérifications avant le départ le matin. Pour toutes sortes de raisons, là, il y a dans les centres de transport, les bus sont cordés, c'est le cas de le dire, là, donc il n'y aurait pas d'espace pour déployer la rampe.
Bon, les bus sont commandés des années d'avance. Je ne sais pas, est-ce que il y a lieu de... On parle de bris ou uniquement de... C'est certains modèles d'autobus qui ne nous offrent pas la rampe avant.
Ça, je ne pourrais pas vous dire là, quel est le motif principal, mais bon, vous savez que maintenant, tous nos bus, les nouveaux bus ont des rampes avant.
Ouais.
Donc, plus on va avancer dans le temps, et je crois là, qu'on a déjà la majorité de nos bus qui ont une rampe avant. Donc, et puis, les 300 bus là, qui vont s'ajouter à la flotte en 2020 auront des rampes avant, bien entendu. Alors, c'est clairement l'intention de n'avoir que des rampes avant à court terme. D'autre part, l'enjeu, c'est surtout le déploiement ou le non-déploiement, parce que là, si la rampe n'est pas déployée en service souvent, ben ça se peut qu'elle se coince avec toutes les petites roches qu'on amène avec nous, avec nos bottes qu'on a déjà malheureusement commencé à transporter en cette mi-novembre, là, c'est un peu tôt. Mais bon, tout ça fait en sorte que le déploiement au garage se fait aussi dans le cadre des entretiens, mais plus il y aura de gens en fauteuil qui prendront le réseau, plus les rampes se déploieront régulièrement. Et donc, à ce moment-là, les facteurs qui font qu'elles restent coincées à l'occasion vont disparaître. Vont s'atténuer. Donc, voilà, c'est une des choses dont on a parlé.
Mais juste parce que, bon, le temps avance, des petites choses en vrac, là. J'ai ouï dire que le métro Baudry ne pourra jamais être rendu accessible universellement. Est-ce que je me trompe ou malheureusement, c'est une réalité?
Bien, ce que je vous dirais, c'est que c'est pas jamais. C'est peut-être le seul pour lequel la situation est assez problématique.
Okay.
Le métro Baudry est très profond. Il y a une entrée sur Sainte-Catherine, puis le quai est en dessous de Maisonneuve. C'est une station là où la solution n'est pas encore trouvée. On ne peut pas faire monter un ascenseur directement du quai jusqu'en haut, parce que là, il faudrait que l'ascenseur finisse dans un triplex. Alors, c'est ouais. un peu complexe.
Okay.
Donc, je vous dis pas qu'elle ne sera jamais rendue accessible. Puis, les gens se posent la question. Là, vous êtes en train de faire des travaux à Berry pour
ouais, ouais.
pas rendue accessible. Mais la question est que la solution technologique est encore à trouver.
Ouais. C'est pour ça que je voulais vous l'entendre ouais. dire, parce que j'ai lu un article dans l'actualité, justement, où on décriait que Baudry, il y a des réflexions, puis on n'a pas... Mais c'est ça, il y a des réalités architecturales. Et d'ailleurs, on en parlait, Christiane et moi, en écoutant l'entrevue. Bon, Longueuil, ligne jaune. Pas Longueuil, mais Berry-UQAM, ligne jaune. C'est pas parce qu'ils mettent un ascenseur sur le quai en bas que l'ascenseur va aboutir au bon endroit en haut. C'est pas simple, ces affaires-là. Mais au moins, un petit changement concret, un abribus qui a vu son seuil régulé avec le reste de la planète. Donc, ça sera servi à ça, cette rencontre avec Execo.
On pourrait se lancer un pool, de dire quelle sera la dernière station, quelle sera la prochaine. un petit pool sur les stations accessibles au métro de Montréal.
C'est certain qu'avec ces 41 stations qu'on vise pour 2025, il en reste quand même une trolley qui, elle, risque de prendre pas mal de retard. On va s'intéresser à l'application RC Audio, qui a suscité quelques mécontents et qui a rendu les gens très heureux. En tout cas, moi, pour ma part, une fois le problème évité, là, c'est comme « Wow, quelle belle appli », même si toi, tu ne veux pas la télécharger. Ça, c'est une autre histoire.
On en parlera dans l'autre émission.
Oui, puis Hydro-Québec, hein?
Oui, Hydro-Québec, dont les bornes de recharge électrique ne sont pas accessibles aux personnes en fauteuil roulant.
Alors voilà, M. La Liberté est venu nous voir pendant qu'on faisait ce petit récapitulatif. C'est rare que Jean-Sébastien ait l'occasion de traverser comme ça, mais une fois qu'on a fini de parler et qu'on vous rediffuse ces bons moments, ben, il vient nous raconter ses vacances. Puis, c'est correct. J'ai déjà hâte à un sujet la semaine prochaine, du moins, ou dans les prochaines semaines, la SQ qui va former certains de ses agents du côté du... c'est quoi, de la Victo, là, de la
en
région
fait,
de Victoriaville?
Si je me rappelle bien de l'article qui nous a inspiré le sujet, la formation a déjà eu lieu.
Ah, c'est encore mieux!
Parce que souvent, moi, je consulte beaucoup les hebdos régionaux et souvent, ils nous parlent de choses qui viennent d'arriver. Oui, je vais les contacter dans les prochains jours.
Oui, parce qu'on aide les agents à savoir comment réagir avec des gens qui ont une déficience intellectuelle. Ben, semble-t-il que ces gens-là peuvent peut-être des fois soit commettre des offenses ou bien avoir des besoins. Prochaine entrevue. Lancement de l'application RC Audio. On en parlait le 22 novembre dernier avec Caroline Jamais, qui, elle, est directrice de la radio de Radio-Canada et de tout ce qui est audio. Maxime Saint-Pierre, rappelle-le-moi, là, lui, là, il est numérique.
Directeur général des services numériques à Radio-Canada.
Bon, le problème, c'est quand on a lancé l'application, elle n'était pas accessible pour les personnes aveugles et ça en a froissé plus d'un. Bon, tout de suite, là, je veux remercier Caroline Janet et Maxime Saint-Pierre. Caroline, qui est directrice générale radio-audio, pas le OH, mais le AU. Et Maxime, qui est directeur général des services numériques. Vous savez peut-être, de toute façon, j'en ai parlé il y a deux semaines, j'ai vu que le RAM a envoyé une lettre. J'ai vu également des amis qui m'ont dit qu'ils avaient écrit. On est vraiment déçus du nouveau RC Audio, pas nécessairement de l'application avec ce qu'elle pourra nous apporter comme service éventuellement, mais qu'elle ait été lancée sans... qu'on ait pu rencontrer les critères d'accessibilité, ce qui fait que ben, y a une partie de la population là, qui n'a pas accès. Surtout qu'il y a des balados qui ne sont pas disons, sur Apple ou sur Spotify, qui sont uniquement sur cette appli-là. Alors, on est obligé d'attendre. Donc, Caroline Jamais, Maxime Saint-Pierre, merci d'être là parce que vous le savez que je ne suis pas content. C'eût été facile de juste trouver une excuse. Alors, j'apprécie beaucoup, beaucoup. Caroline, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on a lancé une appli qui n'est pas accessible pour tout le monde?
En fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est un projet sur lequel on travaille depuis un an et l'accessibilité a toujours fait partie des plans. Mm-hmm. D'ailleurs, j'aimerais préciser que quand on a lancé l'application, tous les utilisateurs Android ont eu accès à l'accessibilité. Donc, ça a été prévu dans les plans et ça a été lancé avec l'accessibilité pour les usagers Android. Maintenant, dans la foulée des... Vous savez, un projet comme celui-là, c'est un immense projet qui demande énormément de travail. Et dans la foulée des derniers moments là, de développement de l'application sur iOS, donc les produits Apple, il y a eu malheureusement un retard à certains niveaux et ça a créé un effet domino. Alors, il y a des choses qui n'ont pas pu être disponibles au moment du lancement, mais ce sont des choses qui étaient prévues et qui ont été donc décalées dans les jours qui ont suivi. Et je peux vous dire aujourd'hui que c'est quelque chose qui va être disponible là, au cours des prochains jours parce que ça faisait partie là, du... On appelle ça le roadmap. Là, j'essaie de trouver le mot en français,
la
peut-être.
Feuille de route.
La feuille de route, voilà. Okay. Donc, ça a toujours fait partie de la feuille de route, mais il y a eu des impératifs de production vers la fin qui ont fait en sorte que sa vie, c'est des choses qui mm-hmm. arrivent. Et malheureusement, donc, ça n'a pas été possible pour la date de lancement où tout était ficelé avec... Ouais. Alors, mais je comprends tout à fait la déception et peut-être que ce qu'on aurait dû faire, dans le fond, c'est d'avertir les gens en amont. Puis vous avez tout à fait raison.
C'est juste émettre un communiqué disant, bon, on est conscient de, disons, d'ici au 30 novembre, on souhaite... Un peu comme Netflix qui disent, toutes nos productions sont en vidéodescription, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont en vidéodescription le jour du lancement de notre production. Donnez-nous un mois et revenez voir chaque semaine si la version avec audiodescription est disponible. Puis... C'est vrai que ça arrive, là, je veux dire, Apple avec son iOS 13 là, nous donne des maux de tête, ça n'a pas de bon sens. Je suis rendu avec une voix française parce que la voix canadienne-française est tout croche. Puis même si on est rendu à 13.2.2, ils n'ont toujours pas corrigé, bon, puis l'option balado et tout et tout. Donc, on comprend que ça arrive, mais c'est ça. Si la prochaine fois, c'était possible de nous prévenir parce qu'on s'est senti mis de côté. On s'est senti un peu comme le train de l'Est, où il y avait 3 gares sur 15 qui étaient accessibles à l'ouverture du train de l'Est, il y a des gens qui se sont sentis laissés sur le quai de la gare.
Mais je comprends, puis je pense que c'est... En fait, c'est pour ça qu'on est content aussi d'être ici aujourd'hui pour en parler, parce que c'est une déception et elle est tout à fait compréhensible. Et c'est pour ça qu'en fait, on est content aussi de vous dire que ce travail-là a été fait et peut-être que mon collègue Maxime peut vous donner plus de détails sur le dépôt qui va être fait. Puis l'autre chose aussi que je voudrais dire, c'est qu'on a pensé aussi améliorer l'expérience dans l'application audio. Donc, l'expérience, elle est améliorée au niveau de l'accessibilité. Alors, donc, ça prenait aussi un travail supplémentaire parce que notre but aussi, c'était justement de passer à une nouvelle étape au niveau de l'accessibilité. Puis c'est peut-être que Maxime pourrait... donner un peu plus de détails pour les usagers.
Ben, j'ai envie, Maxime, de vous poser des questions, à savoir, bon, un des petits problèmes qu'on trouvait toujours sur ICI, statut ICI première ou RC première, je ne suis plus sûr, là, mais l'application de la première chaîne, c'était entre autres lorsque venait le temps de choisir une région qu'on voulait écouter. C'était pas simple, on ne pouvait pas juste balayer à droite, fallait se promener. Là. Est-ce que ça va être réglé? Si on veut écouter Thunder Bay, non, il n'y a pas d'antenne à Thunder Bay, mais disons le nord de l'Ontario, est-ce que ça va être facile de trouver le nord de l'Ontario pour une personne aveugle?
Bien, dans l'application, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place un système pour détecter la région de facto. Donc, dépendamment d'où sont les gens. Okay. Et ensuite, par la suite, si les gens veulent accéder pour changer la région, c'est possible de le faire. Puis dans l'enjeu qu'on a en ce moment dans l'application, c'est que le lecteur d'écran n'est pas disponible de façon optimale. C'est pour ça qu'on s'en... On s'apprête à lancer d'ici quelques jours la version qui sera mise à jour, qui va contenir aussi tout le détail de ce qu'on va lancer. Donc, on parlait de communication tantôt. Ce que nous, on a un mea culpa à faire, c'est que ça n'a pas été communiqué. Puis dans la mise à jour sur les App Store, par exemple, tous les changements vont être faits. Puis vous disiez en début d'entrevue que iOS 13 était problématique pour vous, l'est pour nous aussi. Ouais, hein? Donc, okay. mais il reste que des fonctionnalités supplémentaires comme le Magic Touch, entre autres, qu'on va rajouter, qui dans le fond nous permet de...
Qu'est-ce que c'est?
Le Magic Touch, ça permet rapidement au niveau du player audio de pouvoir le contrôler facilement avec les doigts sans nécessairement aller retourner dans le lecteur d'écran. Donc, il va y avoir des fonctionnalités tactiles aussi qui vont être ajoutées.
Pour avancer, pour disons, dans le reportage ou reculer.
Exactement. Okay. Donc, c'est le genre de fonctionnalités que, quand on regarde le travail qu'il y a à faire, puis les standards ne sont pas les mêmes avec Apple et Google, donc avec la version Android, bien, c'est les éléments de plus qu'on doit adresser si on veut lancer un produit de qualité.
De toute façon, ça, c'est une des choses qu'Apple nous a retirées depuis iOS 13, c'est qu'on ne peut plus jouer, disons, de 10 minutes en 10 minutes dans un reportage. Alors là, tu avances de 30 secondes pour sauter l'entrevue de Jean-Philippe Vautier. C'est long. Bon, ça, ça va pour les... Ce qui est le fun, de ce que je comprends, c'est qu'ici, musique est... unifié à ICI Première, à l'application, disons, de Première Plus. Tout est tout en un.
Exactement. En fait, ouais. Ce qu'on a voulu créer, c'est une destination unique pour tous les contenus de Radio-Canada, qu'ils soient parlés, qu'ils soient musicaux, donc des émissions de musique, mais que ça soit aussi des balados, des listes d'écoute, des livres audio. Il y a vraiment toute une panoplie de produits audio qui sont disponibles, mais ils étaient séparés auparavant, soit dans une marque ICI Première, pour tout ce qui était parlé et tout ce qui était musique, c'était sous ICI Musique. Alors, présentement, l'application ICI Musique est encore disponible pour quelques
heureusement,
semaines.
Heureusement, ça me permet de l'utiliser même si.
Et puis, dans le fond, audio, ce que c'est pour un auditeur, donc dans le fond, simplifier l'expérience, donc d'avoir une seule destination et il y a des rails qui sont horizontaux qui sont organisés par catégorie. Et on peut retrouver facilement, donc on a voulu faire quelque chose d'intuitif et aussi très, très riche pour créer, dans le fond, une destination, comme je disais, francophone de qualité avec toutes les émissions radio qu'on trouve sur les deux antennes, les balados. On a lancé d'ailleurs 10 nouveaux balados à l'occasion du lancement et il y en aura encore d'ici Noël qui vont être lancés. Alors, on se lance vraiment dans la production balado. Il y a aussi les livres audio. On a une centaine de livres audio. Il y a 200 listes d'écoute musicale qui sont disponibles aussi par genre, donc que ce soit du jazz à musique classique, etc., etc. Il y a aussi une antenne de musique classique qui s'appelle ICI Musique Classique, qui est disponible également sur l'application. Donc, en fait, c'est toute la richesse de cette offre-là qui se retrouve sur audio, et c'est Radio-Canada Audio, donc c'est AUDIO ou bien OHDIO, selon si on l'épelle avec la marque ou non.
Savez-vous si ceux qui ont des assistants vocaux, que ce soit comme ICI Classique, j'ai essayé avec mon Alexa, elle ne trouve pas le ICI Classique. Elle va trouver ICI Musique. Est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, on va en arriver là aussi?
Je me permets de prendre la parole. Ouais. On travaille beaucoup avec les Amazon de ce monde, les Google, etc. Ils ont chacun leur propre recette pour que ça fonctionne. Donc, sans dire que c'est impossible, c'est un casse-tête. Mm-hmm. Puis oui, on travaille à ce qu'au niveau vocal, ça soit le plus facile pour l'utilisateur possible de pouvoir demander les contenus qu'il aimerait écouter. Puis Amazon n'a pas les mêmes règles que Google. Donc, sans dire qu'on nage dans le chaos. Et on s'y prend plaisir à décoder tout ça, mais il reste que c'est une réalité. Mais oui, l'objectif, c'est que ça soit disponible le plus facilement possible.
Et en terminant, je sais que c'est pas dans vos départements, mais juste au cas où vous ayez entendu des choses dans la boîte, est-ce qu'on avance pour offrir tout TV avec vidéo description? Parce que là, si tu as manqué ton émission... Tu ne peux pas ni la trouver sur Illico, ni sous tout.tv avec la vidéo description.
Bien, je vais me permettre de prendre la parole, Maxime. Aussi. Donc, sur tout TV, l'an dernier, on a fait un projet pilote justement pour ajouter la vidéo description sur certains contenus pour pouvoir tester, s'assurer, parce que c'est très modulaire le numérique. Donc, on commence petit, on teste, puis si c'est concluant, bien, par la suite, on est en mesure de faire le roll-out. Okay. Dans ce cas-là, on a commencé le travail, puis c'est un travail en continu.
Mais est-ce qu'il y a des émissions qui le sont? Est-ce que...
De mémoire, il y a une émission jeunesse là, qui me vient en tête, mais je sais qu'il y a des contenus de plus en plus qui vont avoir la vidéo description. Ça dépend toujours de la capacité aussi de la plateforme à le faire et le type d'émission.
Donc, c'est pas la popularité. Là. C'est pas « dites-le à vos amis, puis s'il y a beaucoup de gens qui écoutent, on va le faire », c'est autre chose.
En ce moment, on y va vraiment une pièce à la pièce, donc ouais, une pièce à la fois. Ouais.
Mais j'espère que le dossier Tout.tv là, en 2020 va gagner des galons. Mais on avance, c'est ça. Ben, on aime ça. Un peu de trois gars sur le sofa, puis ensuite, un dernier petit tour de piste pour 2019.
T'es même pas supposé de mettre ton manteau. Faut que tout le monde sorte dehors. Sur chaque étage, quelqu'un du bureau porte fièrement un tassard. La seule fois dans l'année où tout le monde prend l'escalier. Arrivé dehors, essoufflé comme un petit vieux, je me dis qu'il faudrait vraiment que je fasse plus d'exercices de feu. C'est là que bang, je crevais sur le trottoir avec ta petite jupe. Comme si par dans le foyer de mon gars t'avais mis une bûche. Nos deux groupes ont rapidement été séparés par les pompiers. J'ai voulu crier ton nom, mais je savais pas, fait que je l'ai inventé. Valérie Proulx, c'était pas ton nom. Tu m'as regardé. Certains qu'un jour nous rions de ce moment. En bas de laine dans un chalet, en bois rond avec nos enfants et un groupe d'amis. Depuis ce moment, j'apprends des corridors et fais des détours d'ascenseur. Chaque étage est rempli d'espoir et de doute que tu travailles peut-être ailleurs. J'envoie même des courriels à tous avec un dessin de ton visage. Auparavant, j'avais toujours hâte de quitter le bureau. Maintenant, chaque soir, j'ai le cœur gros quand j'embarque sur mon vélo. C'est là que bang, je fonce dans mon PC avec ton auto. C'est comme si par je venais à la vie couché sur ton capot. Quand je suis revenu à moi, j'étais entouré par les ambulanciers. Souris m'a tendu un message sur un bout de papier. Valérie Proulx, ce n'est pas mon nom. Avec ton numéro V2X, écrit au crayon blond. Valérie Proulx, ce n'est pas mon nom. Avec ton numéro V2X, écrit au crayon blond. J'étais certain qu'un jour nous rions de ce moment. Dans un chalet en bois rond avec nos enfants. Valérie Proulx.
Je sais que t'aimes pas ça, mais moi, je ne me tanne pas. Je trouve ça tellement dommage qu'ils en fassent pas du nouveau, mais trois gars sur le sofa. Une autre situation qui en a contrarié quelques-uns, surtout quand les journaux en ont parlé, mais qui a suscité quand même des échos positifs par la suite, c'est Hydro-Québec avec ses bornes plus ou moins accessibles pour les personnes en fauteuil roulant. Et la réponse qu'Hydro-Québec a donnée à ce citoyen qui s'est plaint.
Oui, quand M. Raté s'est plaint au mois d'octobre à Hydro-Québec que les bornes n'étaient pas excessives, on lui a répondu « La sécurité de nos installations est très importante pour nous, ce qui justifie la configuration de nos bornes de recharge. Nous suggérons à tous nos clients à mobilité réduite d'être accompagnés lors de l'utilisation des bornes de recharge du circuit électrique.
» On en parle avec Louis-Olivier Batty de chez Hydro-Québec en décembre dernier. Louis-Olivier, je suis contrarié, vous allez le sentir, mais c'est pas contre vous, c'est juste que ça donne que c'est vous qui avez le chèque de paye pour recevoir notre contrariété.
Ben, écoutez, d'entrée de jeu, là, je pense on va être clair. Là, c'est sûr que la réponse qui a été faite donc à notre en fait à notre personne, à notre membre du circuit électrique, là, était inappropriée. On s'est d'ailleurs excusé auprès de ce monsieur. Même la directrice électrification des transports Hydro-Québec l'a appelé pour s'excuser personnellement. Donc bon. Évidemment, il n'y a pas d'excuse, mais la réponse a été faite là, ici là, par des gens, là, qui, ouais. des guides là, qui traitent plusieurs demandes par jour, et effectivement, là, ça c'était pas approprié.
Mais ça dépend. Je veux dire, il y a la réponse, ouais, au chapitre des mots utilisés, mais si la réflexion est la même, c'est-à-dire que si à l'interne, on pense que on est mieux de rendre une borne plus ou moins accessible et ensuite les gens demanderont de l'aide plutôt que Petro-Canada qui, eux, se sont assurés d'offrir une borne accessible pour tous. même si on s'excuse, ça ne change rien. Ce qu'il faut, c'est qu'on réalise que ça n'a pas d'allure. Parce que, de toute évidence, les personnes en fauteuil roulant n'ont pas été consultées par le designer de la borne retenue.
Effectivement, et je vous dirais que le reportage qui a été diffusé, l'échange qu'on a eu avec M. Raté, nous a grandement sensibilisé l'équipe du circuit électrique. D'ailleurs, moi-même, l'après-midi après que le reportage a été diffusé, je devais aller les voir et ils étaient tous en réunion autour de la table à dire, écoutez, effectivement, comment on peut faire pour améliorer les choses? Qu'est-ce qui fait en sorte là, que nos bornes sont pas accessibles, comment on améliore les choses. Alors, ça les a sensibilisés et c'est un enjeu parce qu'il faut quand même se le dire, c'est vrai que c'est une contrainte dans le sens où il n'y a pas une contrainte, pardon, mais il y a des contraintes et il faut voir comment on peut rendre les sites aux bornes plus accessibles pour les gens en fauteuil roulant. Notre fournisseur de bornes, évidemment, on va devoir le sensibiliser. Vous parliez de Petro-Canada, effectivement, eux, bon, ça vient tout juste d'être installé là, comme borne. Ils ont un fournisseur là, qui a des bornes où les pistolets de recharge sont sur le devant de la borne, ce qu'on n'avait pas avec notre fournisseur actuel. Donc, c'est tous des enjeux qu'on va devoir regarder, mais je peux vous assurer là, que toute l'équipe là, du circuit électrique là, s'est mis à la table de travail là, pour rendre les sites là, accessibles.
Surtout qu'on peut présumer que Hydro-Québec aura, en tout cas on le souhaite, comme étant actionnaire, aura la majorité des bornes installées au Québec. Donc, d'où l'importance. Combien coûte une borne dans sa confection? Je ne sais pas si vous savez ça. C'est pas grave si vous ne le savez pas, là, c'est un peu pointu, mais j'étais curieux. Bon, que ce soit la confection, l'installation, l'acquisition pour le particulier...
Bien, oui, je vous donne un peu le portrait actuel. Ok, actuellement, il y a presque 300 bornes du côté du circuit électrique au Québec. Là, il y en a plus parce qu'il y a d'autres réseaux également. Mais si on regarde du côté du circuit électrique, il y a près de 3000 bornes qui sont installées. Okay. Et là-dessus, il y a des bornes qu'on appelle des bornes standards de niveau 2 qui sont installées par des partenaires du circuit électrique. Donc là, on retrouve des entreprises privées, des municipalités, des institutions, des collèges, des universités. Donc, des partenaires qui installent ces bornes-là, c'est à peu près 5 à 7 000 $ d'installer une borne de niveau 2. Et évidemment, ça se fait sur leur stationnement ou dans leur stationnement. Donc, évidemment, il y a là aussi de leur côté une responsabilité, puis nous, on va les sensibiliser à ça, une responsabilité que le site permette là, l'accès aux personnes à mobilité réduite. Je vous dirais que la bonne nouvelle, c'est que pour ce type de borne-là, la majeure partie là, de ces bornes-là, elles sont accessibles puisque c'est une borne qui n'a pas besoin d'avoir une dalle de béton devant. Donc, on arrive dans le stationnement, on redescend du véhicule et on a accès facilement aux câbles de recharge. Donc, pour ces bornes-là, c'est pas trop un problème. Ouais. On a des bornes sur rue, et c'était un peu dans la réponse qui a été faite par écrit, où des bornes sur rue qui, elles, donc sont sur les trottoirs, en bordure de la rue, et qui sont effectivement protégées par un anneau en métal. Bon, on les retrouve à peu près, pour l'instant, juste à Montréal, là, ces bornes-là, mais elles vont se déployer. Et pour protéger la borne, parce qu'évidemment, il y a du déneigement, il y a des chenilles qui passent. Ouais. Donc, oui, effectivement, cette borne-là, elle est protégée, et ça rend l'accès, je vous dirais, à peu près pas accessible pour des gens en fauteuil roulant. Donc là, on a un réel défi là, de voir comment on peut garder le site, la borne sécuritaire, mais de rendre les bornes accessibles.
Cette borne-là, ces bornes-là sont fournies par les municipalités ou par Hydro-Québec, dans le sens, qui paye pour l'installation de la borne?
Ça va être nos partenaires. Donc, la grande majorité de nos partenaires pour les bornes niveau 2, ce sont des municipalités.
D'accord.
Il y a également des entreprises privées qui en offrent. Et donc, je voudrais que c'est ça, vu la configuration de la borne, vu que le câble est plus un peu plus bas, donc je vous dirais que c'est peut-être pas parfait, mais c'est plus accessible pour des gens qui sont en mobilité réduite. Le réel défi qu'on a aujourd'hui, là, on a près de 280 bornes rapides. Et là, ces bornes-là, c'est des bornes à 400 volts qui rechargent un véhicule en 20 à 30 minutes, là, un véhicule électrique. Et là, la configuration actuelle des sites, le type de borne qu'on avait de notre fournisseur, font en sorte que, à part dans les haltes routières là, du ministère des Transports du Québec, où là, il y a un accès qui se fait pour quelqu'un en fauteuil roulant, je vous dirais que oui, c'est vrai que la configuration, on le reconnaît, fait en sorte que ce n'est pas accessible pour les personnes à mobilité réduite.
Okay.
La bonne nouvelle, c'est que là, les gens sont conscientisés.
Ben oui, ben oui.
Il y a un éveil. On est quand même, là, nous, on veut déployer le 1600 bornes rapides dans les prochains 10 ans. Donc, on est quand même au bon moment là, pour améliorer et rendre les sites accessibles. Et c'est ce qui va se faire là, dans les prochaines semaines, prochains mois.
Est-ce qu'on peut même envisager peut-être remplacer certaines bornes? Disons les plus populaires.
Il y a un coût, hein, parce que on parlait de 5 à 7 000 là, pour une borne niveau 2. Pour une borne rapide, on parle plutôt d'un investissement de 60 à 70 000 $. Donc, vous comprendrez que c'est clair que pour les bornes actuelles, ça va être difficile. Mais
on a tout remplacé, les compteurs intelligents. Alors, si on est capable de remplacer les compteurs intelligents à l'échelle de la province, j'imagine qu'on peut remplacer une couple de bornes ici et là.
Ben, en fait, c'est que de toute façon, les technologies avancent et donc il y aura forcément un besoin de remplacer ces bornes-là dans les prochaines années.
Ouais.
Lorsqu'on regarde et ce que les équipes d'ingénieurs là, ont commencé à regarder, c'est plutôt qu'est-ce qu'on peut faire là, pour les prochains sites. Mm-hmm. Donc, est-ce qu'on peut, on a un nouveau fournisseur de bornes qui, lui, on a commencé, là, on a peut-être une vingtaine d'installés, trentaine d'installés, où lui, les pistolets de recharge, là, les cornes de recharge sont à l'avant. Ils sont un peu plus bas que l'autre fournisseur qu'on a. Donc, tout ça devrait permettre d'améliorer. Et là, ils ont déjà fait un test, là, pardon, pour avoir un site où la borne est beaucoup plus près de la dalle de béton. Et des collègues sont allés le week-end dernier, d'ailleurs, ont loué un fauteuil roulant, ont fait le test pour voir si c'était accessible. Et la bonne nouvelle, c'est que oui, ça l'était. Donc, on pense qu'il y a des pistes de solutions qui vont nous permettre de rendre les bornes beaucoup plus accessibles.
Ben, tant mieux. Maintenant, là, vous parliez de vos partenaires. Est-ce que c'est la clientèle qui finalement demande, que ce soit un restaurant, un marché d'alimentation, d'installer? C'est un peu ça? On achale notre gérant local et on lui dit qu'on aimerait bien? Ou c'est comment ça fonctionne pour agrandir l'éventail?
Effectivement, peut-être une des bonnes façons de faire, c'est de sensibiliser un commerce ou régulièrement une municipalité, donc parler à son conseiller d'arrondissement ou au maire pour l'inviter à ce qu'il y ait des bornes qui soient installées, parce que oui, c'est eux qui vont, au bout du compte, c'est eux qui vont payer l'achat et l'installation de la borne. Donc, je vous dirais que le réseau est assez étendu. Nous, évidemment, notre objectif, c'est de s'assurer qu'on retrouve des bornes partout au Québec et qu'on puisse répondre là, aux besoins là, des conducteurs de véhicules électriques pour qu'ils aient une borne là, située près de chez eux ou pour leur déplacement. Donc, nous, on s'occupe de la coordination, disons, du déploiement, mais oui, ça vaut la peine là, de sensibiliser là, sa municipalité ou un commerçant pour avoir une borne de recharge.
Est-ce qu'il y a des régions qui n'ont pas encore été touchées par la borne électrique? Bon, tu sais, c'est sûr, Montréal, Québec, Sherbrooke, Mauricie, on peut présumer que ce sont des régions où l'inventaire est plus grand, mais est-ce qu'il y a des, je sais pas moi, l'Abitibi, la Basse-Côte-Nord?
En fait, on couvrait 16 des 17 régions récemment.
Okay.
Et il y a la semaine dernière, justement, on a des bornes qui se sont ajoutées à Chibougamau, qui est considérée comme la région nord du Québec. Donc là, on vient de couvrir, là, je vous dirais qu'on a des bornes partout à travers la province.
Okay.
Le réseau actuel de bornes de recharge là, dessert bien nos clients. Nous, ce qu'on veut pousser, en fait, là, c'est surtout le réseau de bornes rapides. Donc, lorsque les gens, avec une voiture 100% électrique, vont se déplacer d'une ville à l'autre, s'assurer là, qu'ils aient de quoi se recharger. Parce qu'en fait, il faut évidemment bien comprendre qu'un des grands avantages d'une voiture électrique, c'est que c'est chez vous que vous allez principalement vous recharger. Donc, vous arrivez le soir, vous branchez votre véhicule électrique, chaque matin vous partez, votre véhicule est plein d'énergie. Donc, en gros, votre maison devient votre principale station de recharge.
Ouais.
Et donc, justement, question d'accessibilité aussi, ben, ça peut vous permettre là, donc d'avoir accès facilement à une borne, d'aménager l'accès à la borne chez vous facilement. Donc, ça, c'est un des gros avantages de la voiture électrique.
D'où l'importance de régler ce problème le plus rapidement possible. Vous êtes bon, Louis-Olivier Batty. Vous êtes bon. Merci d'avoir été là. Merci pour les réponses. Et on veut être fiers de l'électrification. On veut être fiers de cette possibilité et de ce qui est finalement une réalité un peu identitaire au Québec Donc, c'est sûr que des réalités comme celles qu'on connaît actuellement, c'est toujours un peu décevant. Mais bon, que ce soit Radio-Canada, que ce soit la Presse Plus, que ce soit... Des fois, il y a des ratés. Quand ça se règle vite, on est capable de passer l'éponge, puis on peut se retenir plutôt que de poursuivre, ce qui pourrait donner congé à certains de vos avocats. Donc, ce que je comprends, c'est qu'il n'y aura pas de remplacement sur les bornes de rue déjà installées. Mais il y a des gens qui, sur la planche à dessin, essaient de reproduire ce que Petro-Canada a déjà réussi à faire, à savoir une borne accessible, peu importe où on l'installe. Christiane, je te le dis tout le temps, mais je veux que les gens sachent que c'est grâce à toi si on trouve tout ce monde-là. Et je te remercie publiquement maintenant que je l'ai fait avec les courbettes que tu mérites.
Ben, merci beaucoup.
C'est tout à fait. On va revenir la semaine prochaine. Jean-Sébastien?
J'attends les compliments.
T'as raison. Écoute, si les gens voyaient mon visage, là, je me sens pris au piège. Je me sens pris au piège parce que c'est vrai que j'ai... Ben, en tout cas, si tu le sais, là, je te le dis comme personne. Et enfin, bref, j'ai l'air têteux, là, mais oui.
Je vais travailler sur les miens envers toi pour l'émission
d'accord,
la semaine prochaine.
D'accord. Et, lui, ça y prend une semaine. Tu peux laisser faire, finalement. Bonne semaine, tout le monde!